RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Martin Guez.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
À la une, le Proche-Orient et le feu vert du gouvernement israélien.
La trêve à Gaza entrera bien en vigueur ce dimanche. De premières libérations d'otages sont annoncées. Des milliers de déplacés gazaouis espèrent de leur côté pouvoir rentrer chez eux et regagner le nord de l'enclave.
Aux États-Unis, investiture glaciale en vue pour Donald Trump ce lundi.
Ah oui, il fera moins 12 à Washington. Grand froid aussi sur le réseau social TikTok. Les comptes de 170 millions d'Américains risquent d'être gelés dès demain en Serbie. La révolte populaire prend de l'ampleur alors qu'une étudiante a échappé de peu à la mort hier en marge d'un rassemblement. Enfin, pour terminer ce journal, je vous emmène à Chemnitz. Julien, triste ville d'Allemagne de l'Est qui redore son image. Chemnitz, capitale européenne de la culture en 2025.
Proche-Orient, la trêve entre Israël et le Hamas débute ce dimanche.
L'accord de cessez-le-feu a bien reçu le feu vert du cabinet de sécurité et du gouvernement israélien hier soir, ce qui va permettre de premières libérations d'otages, à savoir 3 israéliennes. L'État hébreu, de son côté, qui fait savoir ce matin que 737 prisonniers palestiniens seront libérés lors de cette première phase de l'accord de trêve, dont 95 dès demain. La trêve qui sera effective dans moins de 24 heures, des combats qui ont fait près de 47 000 morts à Gaza depuis le 7 octobre 2023, ce qui a provoqué une immense vague de déplacés vers le sud de l'enclave ces 15 derniers mois. Des déplacés qui vont enfin pouvoir rentrer chez eux, Samy Bourhalifa.
Dès le début de la guerre en octobre 2023, Israël ordonne aux habitants du nord de la bande de Gaza de partir. Plusieurs villes du nord de l'enclave sont alors quasiment vidées de leur population, déplacées de force dans le sud, comme Youssef, originaire de Gazaville.
Tout le monde est en train de se préparer pour retourner au nord. Personnellement, j'ai peur, j'ai vraiment peur d'y aller, de voir les décombres de ma maison, mes souvenirs, les endroits à Gaza. Gaza est complètement détruite là. Mais je vais y aller voir. Bien sûr que je vais y aller voir.
Youssef devra toutefois attendre 7 jours après le début du cessez-le-feu pour entamer son périple du retour. C'est ce que prévoit l'accord entre le Hamas et Israël. Amand Bazrol est la coordinatrice des opérations d'urgence de Médecins sans frontières à Gaza. Dans le camp de déplacés d'Al-Mawassi, où elle travaille depuis 2 mois, la majorité des familles souhaitent rentrer chez elles, même si leurs maisons ont été détruites.
Si c'est replanter la tente sur le territoire qui était leur, c'est vraiment ce qui est important pour eux. Quand on est du nord, on est du nord, on n'est pas du sud. Donc c'est d'aller voir effectivement leur terre, aller chercher les gens qu'ils ont perdus, aller voir les familles. Il y a des familles qui sont séparées aujourd'hui. Il faut retourner chez soi et réinstaller et reconstruire chez soi.
Près de 2 millions de Gazaouis ont été déplacés de force durant la guerre, soit presque la quasi-totalité des habitants de l'enclave. Samy Bourhalifa, Jérusalem. RFI.
Gaza, où les bombardements israéliens ne sont pas terminés, le ministère de la Santé du Hamas qui annonce 88 nouveaux morts hier vendredi.
Aux États-Unis, TikTok devrait fermer ce dimanche.
Oui, le réseau social qui communique en ce sens sur X, à moins d'un improbable retournement de situation, n'est d'une intervention de l'administration Biden. Le réseau social chinois qui va devoir fermer, et ce en vertu d'une loi adoptée au Congrès américain en mars dernier. Décision validée hier par la Cour suprême qui a estimé ce vendredi que la mesure était bien conforme, mesure qui oblige Biden, maison mère de TikTok, à vendre donc son application, sinon ce sera l'interdiction. Biden qui refuse de vendre, et voilà donc 170 millions d'utilisateurs américains bientôt privés de TikTok. Certains qui en avaient pourtant fait leur métier, Justine Fontaine.
Aux États-Unis, près de 7 millions de personnes vendent des produits ou des services via TikTok. La plupart sont des femmes, et ces derniers jours, certaines d'entre elles ont pris la parole sur le réseau social pour militer contre l'éventuelle interdiction de l'appli, comme cette patronne d'une boutique en ligne de vêtements.
En tant que petite entreprise, la possible interdiction de TikTok est vraiment terrifiante pour nous. Plus de 90% de nos ventes viennent de TikTok.
D'autres influenceuses soulignent, elles aussi, que l'algorithme de TikTok leur a permis de booster leurs ventes et même d'embaucher, à l'image de cette entreprise de produits de beauté.
On est passé de 10 000 ou 20 000 commandes par an à 3 millions l'an dernier. Grâce au succès qu'on a eu avec TikTok, on a pu embaucher 150 personnes. Maintenant, on veut nous retirer ça. Je suis dégoûtée.
L'an dernier, l'application chinoise avait payé à des influenceurs le voyage jusqu'à Washington pour faire pression sur les parlementaires et essayer d'éviter l'adoption de la loi par le Congrès. Pour autant, le réseau social ne va pas disparaître du jour au lendemain. S'il est interdit, il ne sera plus disponible dans les magasins d'applications depuis les États-Unis, ni mis à jour au fil du temps, mais il sera encore actif sur les téléphones des utilisateurs. Par précaution, les petites entreprises ont en tout cas déjà commencé à migrer vers d'autres applications.
Et le gouvernement de Joe Biden qui dit laisser à l'équipe de Donald Trump le soin d'appliquer ou non l'interdiction de TikTok. Affaire à suivre donc.
Donald Trump, lui, s'apprête à être investi dans un froid polaire.
À vos doudounes, Julien. Tout seuls abris, Donald Trump qui prêtera serment à l'intérieur du Capitole, car il fera moins 12 degrés ce lundi à Washington, où Mike Pence ne viendra pas réchauffer l'ambiance. L'ancien vice-président de Trump, lors de son premier mandat, prévoit bien d'assister à l'investiture de ce dernier, malgré les relations glaciales, là aussi, entre les deux hommes.
RFI 8h05 à Kiev, la capitale ukrainienne prise pour cible ce matin.
4 morts tôt ce samedi dans le centre de Kiev. C'est ce qu'annonce le chef de l'administration militaire de la capitale. Une attaque russe qui a touché plusieurs quartiers de la ville. Information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions.
Vous ne nous écraserez pas, clament les manifestants serbes à Belgrade.
Et ce alors qu'une étudiante a été blessée hier en marge d'un rassemblement. Un chauffard lui a délibérément foncé dessus. Les rangs des mouvements anticorruption grossissent un peu partout en Serbie, surtout dans la capitale où la révolte gronde. Les syndicats appellent à la grève générale et les protestataires pointent le rôle de la presse. Ils accusent notamment la principale chaîne de télévision du pays de ne pas faire son travail. Correspondance à Belgrade de Laurent Rouy.
Sur des centaines de mètres, le boulevard est rempli malgré la nuit et le froid. À l'appel des étudiants et d'intellectuels, des milliers de manifestants se sont rendus devant le siège de la télévision publique qu'ils accusent de défendre un régime corrompu et de conspuer les protestations qui durent depuis plus de 70 jours. Institutrice Maria en veut à cette télévision.
On a le droit de savoir ce qui se passe. La chaîne de télévision RTS doit se comporter en service public pour les citoyens et non au service d'un parti politique. Ils se sont mis au service de la politique et du pouvoir en place.
Tous ont en tête les images du dramatique incident de la veille lorsqu'une voiture avait percuté volontairement une manifestante qui s'en est miraculeusement sortie sans blessure invalidante. Cette attaque a motivé Yelena, employée de banque, à manifester.
Cette vidéo, elle est terrifiante. La situation actuelle est terrifiante. De même que la présentation qu'en fait le président et son attitude envers les manifestations sont terrifiantes. Il porte une part de responsabilité pour ce qu'il s'est passé jeudi.
En décembre, les manifestants s'étaient déjà rassemblés devant la télévision, ce qui leur avait valu un passage au journal, montrant la protestation pour la première fois à toute la Serbie. Cette fois, la télévision publique a interviewé un participant, pendant que quelques employés du média ont déployé une banderole de soutien aux étudiants. Laurent Rouy, Belgrade. RFI.
Au Soudan du Sud, couvre-feu à Djouba et dans le reste du pays.
Décision qui fait suite aux violences subies par les réfugiés soudanais qui ont fait 5 morts cette semaine dans la capitale. Des violences qui font suite aux tueries commises par les forces armées soudanaises contre des Sud-Soudanais. De nouveaux pillages ont éclaté dans de nombreuses villes du Soudan du Sud hier, alors qu'un calme précaire régnait sur Djouba. Des centaines de Soudanais ont été évacués en lieu sûr. Florence Mito.
Quelques sacs et des valises remplies à la va-vite, des nattes où se poser avec leurs enfants. Voilà tout ce qu'il reste à ces familles soudanaises réfugiées dans le quartier général de l'armée sud-soudanaise à Djouba. Gisma Adam Idriss, qui a fui la guerre au Darfour il y a 9 mois, a eu très peur la nuit passée.
Ils sont entrés par effraction dans les commerces de nos maris et en ont blessé certains. Nous, les femmes, nous étions enfermées chez nous alors qu'ils menaçaient de tuer nos enfants. Certains ont pénétré dans les maisons. Les gens se sont blessés en fuyant, sans pouvoir rien emporter.
Mohamed Adam Saïd, réfugié de 38 ans, originaire de l'État du Nil Bleu, est très affecté.
J'ai un magasin, mais ils ont tout volé. Je n'ai plus rien. Je ne suis venu ici qu'avec les vêtements que je porte. C'est tout. J'ai perdu entre 7 et 8 000 dollars. Personne n'a pu empêcher le pillage. Tout ce qu'a pu faire la police, c'est de m'emmener au commissariat pour me protéger. Alors j'y ai passé la nuit. Et ce matin, je suis venu ici, au QG de l'armée. Voilà.
Le président Salva Kiir a réitéré son appel au calme ce jeudi. Les tirs ont toutefois été entendus à nouveau dans la capitale dans la soirée. Florence Mieto, Djouba, RFI.
En France, François Bayrou respire, son gouvernement va pouvoir se mettre au travail.
Un gouvernement qui a évité la casse censure cette semaine et qui va devoir désormais survivre à l'épreuve du budget. Si la gauche socialiste n'a pas voté la censure, elle attend l'équipe gouvernementale au tournant, au même titre que la droite, alors qu'ont repris au Sénat les discussions budgétaires. Victorien Villaume.
Pas de déremboursement de médicaments, 4000 postes d'enseignants maintenus. Si Rachid Temal parle d'avancée réelle pour la gauche, le sénateur socialiste met tout de même en garde. La censure reste une option.
Ce n'est pas fini puisque nous considérons, ça c'est un premier round, nous avons obtenu des choses. Il y aura un second round parce que là nous sommes encore dans le budget. On vérifiera à la fin du budget.
François Bayrou doit également soigner sa droite qui participe au gouvernement. temps. D'une part, certains n'ont pas vraiment apprécié le courrier du Premier ministre à destination des socialistes, le sénateur LR Roger Karoutchi.
S'adresse à un seul groupe politique, qui plus est, qui est dans l'opposition, pour lui dire on va faire plutôt ça, conformément à votre demande et tout, c'est assez étonnant.
Et sur le fond, la droite ne cache pas une certaine inquiétude vis-à-vis de la nouvelle copie budgétaire. Max Brisson.
Pour faire attention à ce que l'addition ne monte pas trop et que l'équilibre budgétaire ne soit pas remis en cause. Le fait qu'on ne peut plus, budget après budget, aggraver le déficit, c'est une obligation. Et donc, nous disons au Premier ministre de faire attention.
Et les discussions en cours au Sénat sont étudiées attentivement. Les coupes budgétaires tout juste annoncées par le gouvernement sur le budget du sport et de l'aide au développement, elles sont par exemple vivement rejetées par les socialistes.
Victoria Villaume du service politique de RFI.
On termine en Allemagne à Chemnitz qui ne fait plus grise mine.
Réputée tristoune, bastion de l'extrême droite, la ville de Saxe à mauvaise presse. Mais plus mauvaise mine, puisqu'elle vient d'être désignée capitale européenne de la culture pour cette année 2025. De quoi redonner le sourire à cette ancienne ville d'Allemagne de l'Est, Pascal Thibault.
Le buste géant de 40 tonnes de Karl Marx est prêt pour un show décoiffant ce soir. Celui qui a donné pendant 5 décennies son nom à cette ville sous le régime communiste est-allemand sera sur la scène. Quelques heures plus tôt, ce sont d'autres camarades qui auront manifesté près de là. Les groupes d'ultra-droite Saxe Libre et Pro-Chemnitz appel à manifester en début d'après-midi. Comme le parti d'extrême droite AfD, première force aux dernières élections, il dénonce les dépenses causées par Chemnitz 2025 qui serviraient d'abord à attirer les touristes et les investisseurs au lieu de profiter aux habitants. La ville dirigée par un social-démocrate se passerait volontiers de ses manifestants. Chemnitz a volontairement mis en avant les émeutes et chasse à l'homme contre des migrants en 2018 dans sa candidature pour devenir capitale européenne de la culture. Khaldun al-Sadi travaille sur un centre de documentation sur la cellule néo-nazie NSU qui doit ouvrir à Chemnitz en mai.
La ville a montré qu'elle est prête à se confronter à l'extrémisme de droite. Il y a suffisamment de personnes dans cette ville qui sont favorables à une telle confrontation. Et cela nous donne du courage, car il y a aussi des personnes qui voient ça différemment.
Avec 1000 manifestations à Chemnitz et dans la région durant un an, la ville saxonne veut changer son image, sortir de l'ombre que lui font ses voisines Dresde et Leipzig et attirer visiteurs et investisseurs. Pascal Thibault, Chemnitz, RFI.
Voilà, on n'a plus qu'à réserver nos billets pour Chemnitz. Vous me donnerez vos dispos, Julien Coquel-Rohem. C'est oui. À vous pour la suite de RFI Matin.
Merci Martin Guèze. À tout à l'heure. RFI Matin dans quelques minutes. On revient sur le cessez-le-feu annoncé dans la bande de Gaza. Quels sont les enjeux humanitaires de cette trêve qui doit entrer en vigueur demain? On en parle avec notre invité, le directeur de l'ONG Supernovae, Alexandre Chatillon. Mais tout de suite, les sports. Avec vous, Baptiste Leduc, le tennis d'abord avec l'Open d'Australie, l'inusable Gaël Monfils est en ce moment sur le court.
Il est quand même surprenant, Gaël Monfils, Julien, 38 ans, et le voilà en train de faire vaciller le numéro 4 mondial, l'américain Taylor Fritz, au troisième tour du Grand Chelem australien. Il mène 2-7 à 1, il a remporté la dernière manche au terme d'un tie-break à sens unique, vraiment un début de saison fantastique pour le français. On rappelle qu'il a gagné le tournoi d'Auckland, et figurez-vous qu'il vient de breaker dans la quatrième manche Taylor Fritz, il va donc servir pour le match 5 jeux à 4 pour Gaël Monfils.
En football, le Paris Saint-Germain tient sa grosse recrue hivernale.
La signature du géorgien Gvicha Kvaratskhelia, je vous épargne la prononciation, ouais, je la prends
vous
pour
êtes
moi.
Gentil.
Elle a été officialisée vendredi soir, il arrive de Naples contre un chèque de 70 millions d'euros. L'ailier s'est engagé à Paris jusqu'en 2029. Voilà peut-être le nouveau joueur phare du PSG, c'est un gros coup, son portrait par Cédric de Oliveira.
Deschamps à sa gloire, un statut d'idole, Gvicha Kvaratskhelia avait tout pour s'épanouir à Naples. Mais après 2 ans et demi en Italie, il s'est laissé tenter par le PSG. Son ancien entraîneur, désormais Antonio Conte, n'a pas caché son désarroi.
Gvara a demandé à partir. Je suis très déçu, forcément. J'ai bien essayé de le convaincre, mais je ne veux pas non plus passer mon temps à forcer quelqu'un à rester contre son gré. C'est vrai que nous perdons un joueur très important.
En compagnie, l'ambidextre géorgien a rapidement séduit par ses qualités de vitesse et d'explosivité. Grand artisan du titre de champion de Naples en 2023, il intéressait depuis longtemps le PSG. Pour Eric Rabezandratana, consultant pour Radio Foot International, c'est une recrue de choix.
Quant à la possibilité d'avoir un joueur comme ça, moi je dis oui. Un joueur comme Kvaratskhelia va être un des talents qui va s'inscrire dans le fait de faire briller les autres autour. Et ce collectif est bon, mais il a besoin d'être agrémenté de joueurs comme ça, avec ce talent-là. Donc ça va déjà booster un peu tout le monde. Il y aura une vraie concurrence saine Et du coup, je pense que ça va être intéressant pour tout le monde, en fait.
Orphelin de Mbappé, parti l'été dernier, le PSG pourrait bien tenir sa prochaine tête de gondole. À bientôt 24 ans, Kvaratskhelia a tout pour conquérir la capitale.
Il ne sera sûrement pas sur le terrain, mais Kvaratskhelia aura un œil sur ses nouveaux coéquipiers ce samedi. Le PSG se rend à Lens à 16h en temps universel.
On joue également en Angleterre ce samedi, 22e journée de Première Ligue, avec le déplacement de Liverpool sur la pelouse de Brentford.
Les Reds, toujours solides leaders, emmenés par une attaque de feu. Mohamed Salah, notamment, marche sur l'eau cette saison. La concurrence est rude devant à Liverpool. Et c'est Darwin Núñez qui en fait les frais. L'Uruguayen est en difficulté, muet depuis 7 rencontres. Mais il n'a pas perdu la confiance de son entraîneur, Arne Slot.
Darwin Núñez, peut-être que certaines personnes pensent qu'il a perdu sa confiance en lui. Moi, je ne le pense pas. Il a contribué au but contre Accrington Stanley, au but de Diogo Jota contre Fulham et à celui contre Southampton. Je pense qu'après cela, il n'a pas été souvent titularisé. Peut-être une fois, je ne sais pas exactement. Pour moi, c'est la vie d'un attaquant. Parfois on marque, parfois on ne marque pas. La chose la plus importante pour moi, c'est que nous, en tant qu'équipe, avons été capables de marquer à chaque match, à l'exception de celui face à Tottenham.
Brentford-Liverpool, ce sera à 15h en temps universel. Et je reviens sur Gaël Monfils, il n'est plus qu'à 2 petits points du match.
Eh bien, vous nous raconterez ça tout à l'heure. Ce sera fini depuis longtemps d'ailleurs. Merci Baptiste Leduc.
RFI Matin.
Et comme chaque samedi sur RFI, Menace sur l'information vous emmène à la rencontre des journalistes du monde entier menacés ou entravés dans l'exercice de leur métier et leur liberté d'informer. Pas de violence physique ou de menace de mort cette semaine, mais un procédé bien connu des entreprises pour faire taire la presse, les procédures Bayon. Le principe, lancer des actions en justice pour intimider ou dissuader les journalistes et défenseurs des droits d'enquêter ou de révéler des informations sensibles. Nicolas Feldman.
5 janvier 2017, alors que le journaliste Nicolas Vescovacci est en pleine écriture d'un livre enquête sur l'homme d'affaires Vincent Bolloré, un huissier frappe à sa porte pour lui remettre un courrier.
Je dépiote cette enveloppe et je vois sur la troisième page un montant, 700 000 euros, plus 50 000 euros. Et je me dis, mais de quoi s'agit-il? Vivendi m'accusait d'avoir mis en péril la bonne marche de l'entreprise à travers des SMS et des mails que j'avais envoyés pour faire simplement mon travail, c'est-à-dire le contradictoire dans une enquête. Et il me réclamait 750 000 euros de dommages et intérêts.
Dans ce dossier, le groupe Vivendi sera finalement condamné pour procédure abusive. Mais l'homme d'affaires et ses sociétés vont engager 2 autres actions en diffamation, celle-ci contre les auteurs du livre, avant de se désister à quelques semaines de l'audience.
Au final, Vivendi ou Vincent Bolloré a tenté 3 procédures contre moi. 3 procédures, ça veut dire quasiment 6 à 7 ans de pression judiciaire sur vos épaules et des coûts financiers de plusieurs milliers d'euros. C'est ça une procédure Bayon. C'est une intimidation concrète et précise sur un journaliste, un journal, une maison d'édition. C'est faire peur pour que les autres ne s'engagent pas sur l'enquête. Et Vincent Bolloré est un adepte des procédures Bayon.
Contacté, l'avocat de Vincent Bolloré n'a pas répondu à cette affirmation. Toujours est-il que ce type de procédure se multiplie, observe Nicolas Vescovacci, par ailleurs membre du collectif de journalistes Informés n'est pas un délit.
On n'imagine pas le nombre de procédures qui sont intentées pour des journalistes qui enquêtent par exemple en Bretagne sur le système agroalimentaire français. Tout ça pour limiter la sortie d'informations qui sont d'intérêt général.
C'est justement pour limiter le recours à ces procédures judiciaires abusives qu'une directive européenne a été adoptée en mars 2024. Didier Lec, avocat au barreau de Paris spécialisé dans le droit de la presse.
Il y a maintenant une directive européenne qui vise à mettre un certain nombre de dispositifs de protection pour ce qui est des procédures les plus abusives. Par exemple, que celui qui a initié la procédure supporte les frais de justice et puis qu'il soit condamné à couvrir les frais de procédure, pour que celui qui tente de bâillonner, pour reprendre l'expression, ait lui-même à gérer une petite prise de risque.
Encore faut-il que les États membres de l'UE transposent cette directive européenne dans leur droit national. Ils ont jusqu'à 2026 pour le faire. Certains avocats pointent déjà les limites de ce texte, puisqu'il ne concerne pour le moment que les actions en justice lancées devant des tribunaux civils et non celles engagées au pénal, qui représentent pourtant l'écrasante majorité de ces procédures Bayon.
Nicolas Feldman. 7h20 à Paris, c'est l'information de la nuit. L'approbation par le gouvernement israélien de l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages dans la bande de Gaza avec le Hamas. Après deux jours d'incertitude, la trêve va donc pouvoir entrer en vigueur demain comme prévu. Ouvre-t-elle une nouvelle page pour la réponse à la crise humanitaire dans l'enclave? Alors que depuis plus d'un an, les ONG dénoncent les entraves et que sur place, la situation est au-delà de la catastrophe. Plus de 46 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Près de 2 millions de déplacés et autant de Gazaouis au bord de la famine selon le programme alimentaire mondial. Moins de la moitié des hôpitaux de Gaza restent opérationnels aujourd'hui. Bonjour Alexandre Chatillon.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et directeur de l'ONG Supernova, présente dans la bande de Gaza depuis 2023. Vous vous y êtes vous-même rendu cet été. Vous devez, je crois, y retourner dans 3 semaines. Avec ce cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur demain, peut-on parler d'un signe d'espoir, d'un potentiel tournant sur le plan humanitaire ou est-ce que c'est encore trop tôt?
Non, c'est tout à fait un signe d'espoir. C'est un tournant dans la vie des Gazaouis, c'est un tournant humanitaire. Ce cessez-le-feu est un changement historique pour les Gazaouis, pour la communauté internationale, pour la reconfiguration également régionale. C'est une grande nouvelle qui, moi, m'a mis des larmes dans les yeux et pour toutes nos équipes sur place également.
On nous dit d'un côté l'espoir et de l'autre l'inquiétude, le risque que la guerre reprenne à tout moment, à l'initiative soit du Hamas, soit d'Israël. Il y a aussi ce découpage en phase de l'accord de cessez-le-feu qui le fragilise également. Benjamin Netanyahou est sous pression des membres d'extrême droite de son gouvernement pour reprendre la guerre dans 6 semaines à l'issue de la première phase. C'est ce que vous craignez ?
Alors, dans un premier temps, on va se concentrer sur apporter de quoi rendre la vie moins douloureuse pour les Gazaouis. Plusieurs points. Le premier, c'est que effectivement, l'extrême droite israélienne, le parti sionisme est contre l'accord, et donc il y a à tout moment un risque de départ de ce parti de la coalition gouvernementale israélienne qui fragiliserait cet accord. Mais je préfère voir le verre à moitié plein, me dire que pendant 6 semaines, on va pouvoir faire entrer 600 camions. 600 camions, ouais. C'est 15 fois plus qu'aujourd'hui. C'est le niveau d'avant la guerre. C'est libéraliser le volume de camions qui attendent à l'extérieur de la bande de Gaza depuis des mois. C'est permettre d'apporter de l'eau, à manger, des vivres à des gens qui ont vécu pendant 15 mois une situation insoutenable. Il faut vraiment se rendre compte que ce que c'est vivre dans des tentes, ne pas avoir à boire, ne pas avoir à manger, ne pas se laver dans des conditions d'été très fortes, 40 degrés en juillet quand j'y étais. Puis là, des conditions d'hiver, on vit dehors avec des habits qu'on a sur soi depuis plusieurs mois. Donc des conditions difficiles. Et c'est très bien qu'il y ait des camions qui rentrent.
Justement, après ces 15 mois de guerre, avec les conditions que vous évoquez, notamment l'hiver, quelles sont les premières priorités, les premières urgences aujourd'hui, celles auxquelles il faut répondre au plus vite dès que la trêve entrera en vigueur?
Alors, la trêve rentre en vigueur demain, ce qui est une très bonne nouvelle. Dans une semaine, les Gazaouis pourront bouger. Alors, il faut se rappeler que pratiquement 1 800 000 personnes sont déplacés internes, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur maison ou quitté leur maison, sont dans un camp et donc on s'attend à ce que 60 à 70% de ce 1,8 million, donc grosso modo 1 500 000 personnes, vont rebouger, repartir vers leur maison, que ce soit dans le sud, à la frontière égyptienne, dans la grande ville de Rafah ou au nord, à Gaza City. Ce mouvement de population, il s'accompagne d'énormes challenges et c'est là où la communauté internationale et la France doit accompagner ce mouvement de population au retour et ça ouvre donc de nombreux défis. Le premier, c'est l'hébergement. Où est-ce que ce 1,5 million de personnes va pouvoir vivre? Pendant une semaine, cet accord prévoit que les populations resteront fixées. Mais dans 7 jours, il va y avoir une mobilité d'abord à pied, avant que ce soit en voiture. Donc, manifestement, les gens vont devoir laisser leur tente. Où est-ce qu'ils vont vivre à leur retour? Premier challenge.
Il va falloir leur en fournir de nouvelles là où ils
vont. De nouvelles tentes, de l'eau, puisque les circuits d'adduction d'eau sont tous interrompus. À manger, est-ce que les cuisines communautaires vont pouvoir repartir, réexister? Et puis, moi, mon analyse, c'est qu'il va y avoir un vrai enjeu de sécurité.
Oui.
Le Hamas assurait une police de facto quand le Hamas était au pouvoir dans la bande de Gaza. Le Hamas est quasiment décimé. Maintenant, qui va assurer la police lorsque les populations vont se déplacer? C'est un grand enjeu. C'est un enjeu, à mon avis, très fort pour que les populations puissent vivre en harmonie. Et c'est là-dessus que, moi, je souhaite qu'on intervienne également. Assurer une paix, également dans le mouvement des populations et la sécurité des individus.
Il faut aussi protéger les convois humanitaires qui vont rentrer dans l'enclave pour éviter les pillages auxquels on assiste depuis des mois maintenant.
Oui, bien sûr, des pillages auxquels moi j'ai assisté. Il faut se rendre compte que quand on rentre dans la bande de Gaza, il y a des gens qui nous attendent cagoulés et pour aller piller les camions. Alors, moi j'ai une analyse assez mécanique des choses, c'est-à-dire que quand on organise le manque, ce qui était le cas des autorités israéliennes, forcément qu'on nourrit des cercles vicieux et donc on nourrit des groupes armés. Puisqu'il y a 10 camions qui rentrent par jour, et donc quand il n'y a rien, eh bien, ce sont les plus forts qui vont s'emparer des marchandises pour les revendre au marché noir et s'enrichir. Maintenant, avec l'adduction de 600 camions par jour, je pense que, assez mécaniquement, la violence va diminuer parce que le fait qu'il y aura moins de manques, il y aura moins de problèmes de recherche de produits alimentaires, d'accès à l'eau, et de fait, j'imagine que la violence va de facto se réduire naturellement.
Je voudrais revenir à ce nombre de 600 camions. Il y a le nombre et puis il y a ce qu'il y a dans ces camions. On imagine que tout dépend de ce qui pourra passer la frontière. Il y a des produits essentiels qui sont interdits et qui doivent pouvoir rentrer aujourd'hui de toute urgence.
Tout à fait. Alors les autorités israéliennes ont une liste d'une vingtaine de produits qui sont autorisés pour rentrer dans la bande de Gaza. Alors on a un grand danger, on ne le sait pas encore aujourd'hui si cette liste va être étendue ou pas. On a l'impossibilité structurelle de faire entrer du chlore par exemple, puisque c'est ce qu'on appelle un double usage, c'est-à-dire que le chlore peut être utilisé pour purifier l'eau, c'est la façon la plus simple de purifier l'eau et donc de rendre de l'eau potable, mais c'est aussi pour les esprits les plus belliqueux une façon de créer des bombes. Et donc l'introduction de chlore dans la bande de Gaza, qui est un outil très simple pour permettre aux populations d'avoir accès à une eau de qualité, eh bien, est impossible. Est-ce que on va pouvoir rentrer du chlore, par exemple? C'est une grande question. Il n'y a pas de panneaux solaires en ce moment dans la bande de Gaza. Il est difficile d'avoir accès à l'électricité. Est-ce que on va pouvoir faire rentrer des panneaux solaires? Est-ce que les camions d'essence vont réellement rentrer? C'est un vrai enjeu, et ça, les prochains jours nous le diront.
Vous avez parlé de la violence du quotidien, alors celle qui concerne les convois humanitaires pillés, mais aussi la violence entre des Gazaouis qui sont confrontés à la fois à cette situation humanitaire catastrophique et à l'absence de police. Votre ONG travaille notamment sur la protection des femmes. On imagine que les femmes et les enfants font partie des premières victimes de ces violences internes.
Tout à fait. Nous, on intervient sur financement de la France pour essayer d'alléger les tensions intracommunautaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la promiscuité, le manque des denrées génère de facto des tensions. C'est dans la nature humaine. Et donc, notre intervention vise à protéger, sensibiliser les femmes, les enfants. Nous organisons des espaces d'apprentissage pour que les enfants puissent reprendre l'école. Et donc, tout l'enjeu, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à le faire dans le cadre de cette grande mobilité de population. Nos équipes ont préparé ça, nous avons des scénarios d'intervention. C'est un grand enjeu d'assurer la sécurité des enfants, c'est un grand enjeu d'alléger les souffrances psychologiques. Et évidemment, tout est urgent et on espère qu'on sera autorisé à travailler par les autorités israéliennes.
C'est un peu plus lointain au vu des incertitudes sur le cessez-le-feu, mais la troisième phase prévue par l'accord intègre la question de la reconstruction. Pour prendre bien conscience, pour nous aider à imaginer, vous qui êtes allé dans cette bande de Gaza il y a assez peu de temps, à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous dit du chantier à venir, ce qu'on voit quand on s'y rend?
Le chantier est immense et on ne peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'y est pas allé. Il faut imaginer un film apocalyptique. Eh bien, on est dans cette situation-là où l'ensemble des bâtiments sont détruits. On parle de 90% du bâti qui est détruit. Et donc la reconstruction est immense avec des grands défis. Le premier, c'est la dépollution pour éviter que les engins explosifs qui viennent du ciel et qui n'ont pas explosé explosent dans les mains des gens qui vont faire la reconstruction. Il y a ensuite un enjeu de nettoyer les gravats, ensuite de reconstruire. Les habitants gazaouis vont malheureusement habiter dans des camps ou dans des tentes de fortune pendant des dizaines d'années encore.
Très rapidement, en quelques secondes, l'UNRWA aujourd'hui qui risque d'être interdite. Peut-on s'en passer dans la bande de Gaza?
Impossible. Je dis souvent que si un bailleur, si quelqu'un qui finance des activités de reconstruction devait choisir entre l'action de la communauté UNRWA ou des ONG, doit financer UNRWA. UNRWA, c'est une agence qui est structurante pour les Gazaouis, qui fournit des services dans tous les domaines d'activité. Il faut qu'UNRWA continue, c'est obligatoire.
Merci Alexandre Chatillon, cofondateur et directeur de l'ONG Supernova. Vous retournerez dans la bande de Gaza où votre ONG exerce dans quelques semaines.
Merci.
Bientôt 6h30 en temps universel.
Sophie Torlotin. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel ? Qu'est-ce qu'une mère ou un père peut tolérer, accepter, accueillir d'un enfant qui dévie de la route et de ses valeurs ? On en parle avec le film « Jouer avec le feu » qui montre un père impuissant à empêcher son fils de basculer dans l'ultra-droite.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéret.
Tout à l'heure, à partir de 15h10 TU.